Bonjour à chacun. Alors j'aimerais prendre un passage dans Genèse chapitre 12, passage que vous connaissez bien puisque c'est l'appel d'Abraham, Abraham à l'époque, et l'appel est très clair et très facile à retenir, n'est-ce pas? Donc c'est Genèse chapitre 12, verset 1. Lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Voilà, très simple. Va-t'en de ton pays et je vais te montrer plus tard où tu devras aller. Donc, il y a déjà la foi, n'est-ce pas? Mais c'est sur l'appel de Dieu que je veux parler ce matin. Et le titre de mon message serait « Dans quelle maison habitez-vous ? » Je ne m'intéresse pas à la maison physique que vous avez, mais à la maison spirituelle que vous avez. Et ici, on voit qu'il était dans la maison de son père, dans le lieu de sa naissance, dans sa patrie. Et Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, quitte ton pays. Et je pense qu'il y a là un message essentiel à comprendre pour chacun d'entre nous. C'est que l'appel de Dieu qu'on doit entendre, eh bien, nous demande premièrement de quitter quelque part. Pas physiquement, pas nécessairement physiquement. Mais il y a la nécessité de prendre un jour la décision de dire, voilà, je vais quitter la position spirituelle dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et je vais obéir à la voix de Dieu qui me dit d'aller autre part. Spirituellement. Oui, il y a un certain confort à rester dans une position, n'est-ce pas, d'hésitation, parce que ça nous laisse le sentiment de liberté, ça nous laisse toujours le sentiment, voilà, je peux décider, mais je peux aussi rester là où je suis libre. Mais ici, l'appel de Dieu pour Abraham était irrésistible. Il y avait quelque chose dans l'appel de Dieu qui a fait qu'Abraham a obéi. Et il a quitté la maison de son père. Alors qu'est-ce que ça veut dire quitter la maison de son père? Ça veut dire que, et vous lisez ça dans l'évangile, vous lisez ça dans la parole de Dieu, c'est le message de l'évangile. Ça veut dire que Dieu veut que l'on soit qu'on commence une nouvelle vie, qu'on naisse de nouveau, selon l'expression du Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il veut que les hommes et les femmes soient séparés de leur passé. N'est-ce pas? Vous connaissez ce verset que toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'en Christ, il y a cette possibilité de couper, de pouvoir être libéré de l'influence de notre naissance. Ça paraît mystérieux, n'est-ce pas? On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je coupe avec ma famille? Est-ce que ça veut dire que je dois couper avec tout ce qui existe? Est-ce que je dois recommencer à zéro, à apprendre tout ce que, à réapprendre des choses nouvelles? Pas du tout. Mais c'est l'influence de ce que l'on a reçu, l'influence de toute la culture, de toute la pensée, de toutes les croyances, de toutes les choses qui nous ont été transmises, de la loi qui nous a été transmise par notre père, par notre mère. Eh bien, le Seigneur veut nous libérer de ça. Et il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance réellement. Il ne peut pas y avoir de nouveau départ dans la vie si on n'est pas libéré de ça. Vous savez, quelquefois on entend, et on est tous comme ça, n'est-ce pas, dans le témoignage des chrétiens, il y a encore l'influence du passé. Il y a encore l'influence, et les chrétiens se justifient parfois en disant, oui, mais ça, c'est un problème de famille. Si c'est un problème de famille, et qu'on l'a nous-mêmes, ça veut dire qu'on n'a pas quitté la maison du Père, le lieu de naissance. On n'a pas quitté l'héritage n'est-ce pas, qui nous a été imposé. Mais il y a un moment où on doit répondre à l'appel de Dieu et dire, Seigneur, j'écoute, j'obéis, je veux perdre ça, je veux quitter ça. Je veux être prêt à te suivre, même si je ne sais pas, comme Abraham ne savait pas où il allait aller. Dieu lui a dit, je te montrerai plus tard où tu devras aller. Est-ce que on a fait cette décision, pris cette décision dans nos vies un jour? Est-ce qu'on a pris la décision de dire, oui Seigneur, j'obéis, je me lève et je veux te suivre. Je veux répondre à ton appel. Ça veut dire que je veux quitter ce que j'ai reçu, ce que j'ai cru sur toi et sur les autres, sur la vie. Je veux être prêt à abandonner tout ça pour pouvoir être amené sur le plan de la croyance, sur le plan de la pensée, sur le plan de la vie, là où tu me montreras, là où tu montreras que je dois aller. Et si on a fait cet acte de foi, eh bien, c'est là où la nouvelle naissance commence à se faire, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui commence à vivre dans nos vies, qui commence à nous transformer, qui commence à nous libérer de l'influence du passé. Oh, l'influence du passé peut être très confortable, très positive, si on peut dire les choses ainsi. Les gens qui ont reçu une très bonne éducation ont reçu beaucoup de choses dans leur enfance, la protection, eh bien, ils se sentent très bien, ils n'aimeraient pas quitter ce confort, ce que l'on comprend facilement. Mais là aussi, il y a besoin, même pour cela, même les gens qui sont des bonnes personnes sur la terre, elles ont besoin de connaître Jésus-Christ. Elles ont besoin de quitter là où elles viennent, de où elles viennent, quitter leur patrie, leur naissance, la maison de leur père, pour pouvoir rencontrer celui qui veut leur donner la vie nouvelle, pour pouvoir répondre à celui qui veut montrer le chemin par lequel il veut que ces personnes passent. En tout cas, c'est ce qu'a fait Abraham. Mais peut-être vous allez me dire, mais moi, c'est trop dur. C'est trop dur parce que dans mon enfance, j'ai eu énormément de choses qui ont été faites à mon égard. J'ai reçu la loi de manière très sévère, très forte, et je suis entouré d'une muraille pour toute ma vie. Je ne peux pas être libre parce qu'on contrôlait mes comportements, on contrôlait mes pensées, on contrôlait ma façon de vivre. Et donc je sens à l'intérieur que tout est serré. Eh bien, le Seigneur libère de cela aussi. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça le message de l'Évangile. Est-ce que vous êtes prêt à dire, Seigneur, je veux quitter ça, je veux abandonner ça? Parce que ça m'a été imposé, je n'ai pas choisi le lieu de ma naissance. Mais je veux pouvoir me lever et louer le Seigneur. Combien de gens sont chrétiens depuis des années et ils ne peuvent pas dire au Seigneur, je t'aime. Ils ne peuvent pas dire à quelqu'un, je t'aime. C'est trop dur. Parce que dans l'amour, il y a dans la déclaration de l'amour, il y a une puissance. Et ils ont peur que cette puissance vienne ébranler la muraille qui a été construite autour de leur vie. Ils ont peur que ça va remettre en question leur solidité. Il y a des gens qui refusent de pleurer, qui ne veulent pas pleurer, qui vont tout faire pour ne pas pleurer. Parce qu'ils ont peur que là aussi, ça va remettre en question leur position sociale, la façon dont on les voit comme étant des gens solides. Mais on est amené, n'est-ce pas, à reconnaître que tout ce qu'on a reçu, tout ce qui était bon, n'est finalement rien d'autre qu'un vêtement souillé. Toute notre justice qu'on a pu faire, toute la solidité qui nous a été donné peut-être par l'éducation qu'on a reçue, eh bien c'est comme un vêtement souillé qui a besoin d'être changé. N'est-ce pas dans Ésaïe 64, Il est dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Est-ce que vous êtes arrivé au moment où vous avez pris conscience que tout votre passé a besoin d'être changé? Vous savez, on ne décide pas de devenir chrétien parce qu'on a pesé le pour et le contre. Et puis on a dit, ben, tout compte fait, je pense que c'est mieux, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec le pari de Pascal, de Blaise Pascal. Parce que il essaye de négocier, n'est-ce pas, en disant, voilà, c'est mieux de choisir Dieu, parce que si jamais Dieu existait et qu'on a choisi de ne pas croire en lui, on a perdu. Mais si on choisit de croire en lui, eh bien, s'il n'existait pas, on n'a rien perdu. Mais vous savez que Blaise Pascal a eu la rencontre avec Dieu. Il a décrit sa révélation avec Jésus-Christ. Début des pensées de Pascal, vous trouvez quelquefois sa rencontre avec Jésus-Christ, sa révélation de Jésus-Christ. Et là, il savait que Dieu existait. Est-ce que on est en train de négocier avec Dieu? Seigneur, si je me donne à toi aujourd'hui, est-ce que tu vas me demander d'arrêter ça? Parce que là, je ne suis pas sûr d'être d'accord. Ou est-ce que tu vas me demander de faire ceci ou cela? Alors là, c'est... Est-ce que je vais perdre? Est-ce que j'en ai pour mon compte? À ces gens-là, je dirais, il vaut mieux rester comme vous êtes. Parce que la question n'est pas de négocier avec Dieu, de voir si on va perdre ou si on va gagner. La question, c'est de savoir que l'appel de Dieu, c'est un appel d'amour. C'est un appel qui va nous libérer notre passé. Et vous savez qu'il y a une telle prise de conscience qui est nécessaire, que notre passé est tellement souillé qu'on a besoin d'en être libéré. On a besoin d'être libéré de soi-même, n'est-ce pas? Et le message de l'Évangile, c'est ça, c'est d'être libéré de soi, c'est d'être libéré de tout ce qui nous dirige, qui nous contrôle, qui nous manipule dans notre vie, pour être libre en Jésus-Christ. Et il n'y a rien à... C'est pas une question de perte ou de gain, c'est juste merveilleux. Est-ce qu'on est touché par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu ce matin au point de dire, Seigneur, je veux répondre. Oui, j'entends ta voix qui me dit de quitter là où je suis. Et je veux répondre, je veux dire, oui, Seigneur, moi je veux m'avancer pour toi. Je veux te suivre. Je veux te servir, je veux aller là où tu montreras. Ne monte pas maintenant, ce n'est pas nécessaire. Tu me montreras, je te fais confiance. Et donc Abraham, avec sa famille, a quitté la maison de son père, la première maison, n'est-ce pas, où nous trouvons. Vous lirez chez vous le reste de Genèse 12, mais vous allez voir qu'il va être question d'autres maisons. Et vous allez voir qu'ils se sont installés à Sichem. Et ensuite, ils se sont installés, Abraham s'est installé entre Haï, une ville qui s'appelle Haï, que vous connaissez si vous avez lu Josué, et Bethel. Alors, Bethel veut dire maison de Dieu. Et Haï veut dire tas de ruines. Et j'aimerais juste souligner le fait que parfois les chrétiens s'installent entre Bethel et Haï. Ils ont accepté de suivre le Seigneur, de commencer à le servir, à le suivre, de dire « Seigneur, je te fais confiance, je te donne ma vie ». Ils ont été libérés de leur passé, n'est-ce pas? Mais après un certain temps, peut-être après un certain séjour à Bethel, dans la maison de Dieu, ils ont choisi de se diriger un peu plus près de Haï. Et il y a une ville qui n'est pas mentionnée ici, mais qui se trouve près de Bethel, près d'Haï, qui s'appelle Beth-Aven. Peut-être elle n'existait pas du temps d'Abraham, mais géographiquement, elle est située dans cette même région. Et Beth-Aven, c'est la maison du péché. la maison de l'idolâtrie, la maison de la vanité. Plusieurs traductions possibles. Mais en tout cas, c'est une maison. Une ville qui porte le nom de maison. Et la question à nouveau qui se pose, où est-ce que je vais demeurer? Où est-ce, dans quelle maison, dans quel type de maison je vais demeurer? Est-ce que je vais chercher la présence de Dieu? Est-ce que c'est Bethel qui m'intéresse dans le sens spirituel? Je sais que Bethel dans la ville est venu, dans la Bible est venu après une maison de péché, d'idolâtrie. C'est certainement pas une ville, c'est certainement pas un endroit sur la terre où vous devrez aller parce que dans cet endroit il y a la présence de Dieu. Il n'y a pas d'endroit où il y a la présence de Dieu. Si il n'y a pas des chrétiens nés nouveaux, remplis du Saint-Esprit qui ne sont pas présents. D'accord? C'est dans les hommes et les femmes que le Saint-Esprit, que la présence de Dieu vient habiter. C'est pour ça que l'apôtre Paul a insisté à plusieurs reprises sur le fait que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans les vies humaines que le Saint-Esprit vient habiter. Et s'il y a des chrétiens dans un endroit, alors il y a le Saint-Esprit dans cet endroit. Mais ce n'est pas la peine d'aller à tel endroit sur la terre pour dire voilà, là j'ai senti qu'il y avait la présence de Dieu. La présence de Dieu est là, si vous demandez à rencontrer Dieu, vous allez voir ce que c'est la présence de Dieu dans vos vies. Mais est-ce que vous cherchez la présence de Dieu? Est-ce que vous cherchez à demeurer là où Dieu demeure? Vous savez, Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle savait qu'il y avait dans le Dieu de sa belle-mère, il y avait le vrai Dieu. Et elle voulait cette présence, n'est-ce pas? On ne veut pas partir de sa présence. Et souvent, c'est le cas pendant des années après la conversion. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui vient quelquefois nous faire quitter cet endroit, qui nous fait attirer vers Beth-Aven, la maison du péché ou la maison de la vanité. Et finalement, on se trouve à Haï, n'est-ce pas, un tas de ruines. Et j'aimerais parler de cette ville de Haï, parce que si vous la connaissez surtout en lisant Josué. Et dans Josué, il y a eu une défaite dans la conquête de Canaan, justement, précisément à la ville de Haï, parce qu'il y avait eu de l'interdit qui s'était produit juste avant. Il y avait Akan qui avait pris les choses que Dieu avait interdites à Jéricho. Il avait dit à Israël, vous dévorez les choses par interdit, et Akan s'est servi quand même d'une part du butin. Et à cause de ça, il y a eu une défaite en Israël au niveau de la ville de Haï. Et Akan, selon l'ordre de Dieu, à cause de cette désobéissance, a été lapidé. Or, vous allez dire, mais c'est affreux que Dieu ait demandé ça. Le message de l'Ancien Testament est un message qui nous indique clairement comment nous devons réagir dans nos propres vies. Ce qui était fait aux individus dans l'Ancien Testament, c'est ainsi que l'on doit traiter les problèmes dans notre propre vie. Et s'il y a de l'interdit dans nos vies, nous devons lapider rapidement ce problème dans nos vies. Il ne faut pas qu'il vive, il ne faut pas qu'il continue à se propager, n'est-ce pas? Mais Akan a été lapidé avec sa famille dans la vallée d'Akor. Une vallée terrible, parce qu'elle était marquée par ce péché, par cette défaite en Israël. Mais avec beaucoup de joie, j'ai vu que dans Osée le prophète, Dieu s'adresse à son peuple et dit « Je vous donnerai la vallée d'Akor comme une porte d'espérance. » Et je voudrais dire ce matin que peut-être certains d'entre nous, on peut avoir la culpabilité, le sentiment d'avoir fait des choses graves, d'avoir touché à l'interdit. Et ce sentiment de culpabilité, eh bien, peut être tellement fort que on perd courage, n'est-ce pas? Et on dit tout ce que je mérite, c'est la vallée d'Achor. Je mérite d'être lapidé, d'être rejeté, de ne pas avoir droit à cette vie spirituelle. Moi, j'étais convaincu de ça quand j'étais adolescent, que le salut était pour tous, sauf pour moi, que j'étais trop pécheur, que j'étais trop compliqué pour recevoir la simplicité de l'Évangile. Et j'ai cru ça réellement, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même me révèle que pour moi aussi, ce salut était possible. Mais si vous criez à Dieu, si vous demandez pardon pour vos péchés, eh bien, la vallée d'Achor va se transformer en porte d'espérance. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Moi, c'est ça que je veux. Je veux que, au lieu de la mort, il y ait la vie dans ma vie. Qu'au lieu de la condamnation, n'est-ce pas, il y ait cette espérance, cette assurance qu'on est pardonné. Vous savez, la femme décrite dans Jean chapitre 8, qui était une femme adultère, qui a été amenée par les pharisiens devant Jésus, et on a dit qu'elle a péché selon la loi de Dieu, elle doit être lapidée. Elle savait qu'elle allait être lapidée. Quelle détresse, quelle culpabilité, bien que je me permette de suggérer que peut-être elle n'était pas coupable, que peut-être c'était les hommes qui étaient absents là, n'est-ce pas, qui étaient les responsables. Mais voilà qu'en tout cas, cette femme était là spirituellement dans la vallée d'Achor, cette vallée où elle devait être lapidée. Et Jésus devait prononcer le verdict. Et Jésus a dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Quelle espérance, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi? Eh bien, Jean chapitre 1 nous le dit, c'est que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, quand vous répondez à cet appel, lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez la grâce et la vérité. Les gens qui sont légalistes, qui sont sous la loi, disent des vérités. Ils viennent avec vous et vous disent, vous êtes coupable. Regarde, c'est écrit là, c'est pas bien ce que tu fais, c'est grave ce que tu as fait. Tu mérites d'être lapidé, tu mérites ceci. Ça, c'est la vérité. Ou la vérité avec un petit V, mais c'est vrai ce qu'ils disent. Et il y a eu ce courant dans le milieu évangélique qui a tellement été influent, où on a prêché que Jésus, grâce à Jésus, il y a la grâce, il y a la grâce, il y a la grâce. Et on dit, voilà, ben j'ai péché, mais bon, il y a la grâce, donc ça va. Et on n'a pas mis la vérité. Mais la vérité, c'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Si vous avez péché, c'est-à-dire tout le monde ici, eh bien, vous méritez l'enfer. Mais la grâce de Dieu, elle est là. La vérité, c'est ce que on mérite. C'est ce qui est déclaré, c'est ce qu'on mérite. Mais la grâce, c'est de pouvoir enlever ce qu'on mérite parce que Jésus a payé à notre place. Et c'est le merveilleux message de l'Évangile. C'est un message d'espérance. Ce qui devait être la vallée d'Achor, où la mort devait régner, où la condamnation devait régner, eh bien, il y a l'espérance. Et si vous n'avez pas la certitude aujourd'hui d'avoir que votre condamnation s'est transformée en espérance, en assurance de pardon, eh bien, faites-le chez vous aujourd'hui. Dites au Seigneur, je veux te donner ma vie. La condamnation vient surtout chez ceux qui ont reçu la loi de manière très forte. La condamnation protège les gens quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ça protège les gens. Le fait de dire, si tu fais ça, c'est excessivement grave, si vous dites ça à un enfant, il grandit dans cette conscience que c'est excessivement grave. C'est ainsi que le peuple d'Israël devait élever ses enfants. Mais le problème, c'est que cela nous amène à la culpabilité lorsque l'on enfreint un des commandements. Et on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du pardon. Pas seulement de la vérité dans ce cas-là. On a besoin de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne pourrait pas pardonner pour vous. Ce matin, il y a la possibilité d'être pardonné. Vous savez, lorsque Josué, fils de Yotsadak, se trouvait, vous lisez ça dans Zacharie, se trouvait, c'était la vision de Zacharie, c'était une révélation que Dieu lui a donnée. Il voyait Josué, le grand prêtre, qui était devant Dieu, et Satan l'accusait. En disant, il avait des vêtements souillés, donc les accusations étaient vraies avec un petit v. Vous savez, les gens disent quelquefois, si tu as la conscience troublée, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui accuse. Mais attention, si vous avez la conscience troublée, c'est peut-être qu'il y a des raisons d'avoir la conscience troublée. Vous ne devez pas dire, je rejette cette... comme les techniques qui sont de plus en plus répandues, je rejette, je refuse cette condamnation, ce sentiment de culpabilité. Non. Les vêtements de Josué étaient sales. Oui, c'était sale, c'est objectivement, Zacharie dans la vision l'a constaté. Mais il y avait la grâce qui était là dans le ciel et des vêtements nouveaux ont été donnés à Josué, un habit tout neuf, tout propre. Et c'est ça le message de l'évangile que Zacharie apercevait de manière extraordinaire. C'est que dans la vallée d'Achor, au moment où vous devez être lapidé, au moment où je dois être lapidé à cause de mon péché, il y a le pardon, il y a la grâce de Dieu qui vient et qui nous prend, le Seigneur nous prend dans ses bras et il nous transforme. Et il dit, va et ne pêche plus, il n'y a pas de condamnation. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'Esprit. C'est ceux qui ont pris conscience qu'il y a une condamnation qui était sur eux. Et c'est là où Jésus vient ôter la condamnation, et c'est ça qui est merveilleux. Mais est-ce que dans nos vies, on est toujours en train d'hésiter, n'est-ce pas, entre la maison du péché, le tas de ruines ou la maison de Dieu. Et j'aimerais terminer ou avancer vers la fin en insistant sur la nécessité de vivre dans la présence de Dieu. N'essayez pas des techniques qui vous permettent d'arrêter de pécher dans tel domaine ou tel domaine. Ne faites pas des efforts, parce que ça devient du légalisme. Ne faites pas des efforts pour vivre une vie chrétienne conforme à ce que vous lisez. Parce que dans ce cas-là, vous obéissez à une loi, vous obéissez à la loi, vous êtes dans un système de l'Ancien Testament. Mais cherchez la présence de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la présence de Dieu, on n'a plus envie d'être comme avant. Dans la présence de Dieu, on a envie de rester dans sa présence. Et si vous ne la connaissez pas, alors cherchez-la. Cherchez de tout votre cœur, demandez, je veux, Seigneur, connaître cette présence de Dieu, je veux te connaître. Et si vous faites cette prière de manière sincère, si dans votre cœur il y a cette aspiration, n'est-ce pas? Si dans votre cœur il y a ce matin quelque chose qui répond et qui dit « Moi, je veux te suivre. Je veux quitter mon pays, la maison de mon père, ma patrie, ma naissance, ma culture, ma façon de croire jusqu'à présent, tout mon enseignement religieux jusqu'à présent. Je suis prêt, et attention, même si l'enseignement religieux vient de cette église, oui, il faut le quitter. » Pour avoir la révélation personnelle. Quand on a été élevé dans les milieux évangéliques, on a une conception très évangélique du monde. On a besoin d'être lavé de ça. Et on a besoin que ce soit le Saint-Esprit et plus l'Église évangélique qui dirige la vie. Oui, on a besoin que le Saint-Esprit. Donc si vous avez dans votre cœur ce désir et qu'il y a quelque chose qui répond, le Seigneur l'entend. Il y a des gens qui ferment leur cœur à ça, qui disent non. Moi, j'ai décidé, c'est Beth-Aven. Ou moi, j'ai décidé que Haï, eh bien, dans ce tas de ruines, c'est pas si mal. Mais malheureusement, votre vie sera une ruine. Même si vous, socialement, vous évoluez correctement, combien de gens sont dans un état de ruine? Regardez autour de vous. On essaye de dire qu'il n'y a pas de Dieu. On essaye d'inculquer ça à nos enfants maintenant très jeunes en France. Qu'il n'y a pas de Dieu, que ce sont les valeurs de la République qui comptent. On est en train de abattre le mur porteur de la société qu'est la famille. On est en train de revisiter tout ça. Et moi qui ne suis pas du tout un bon bricoleur, eh bien je sais que avant d'abattre un mur, il faut se demander s'il est porteur. Et la famille est bien sûr ce qui a porté les sociétés depuis des générations, depuis des siècles. Et là, on est en train de, en quelques semaines, en quelques mois, on est en train de casser ce mur porteur. Qu'est-ce qui va rester? Eh bien, probablement un tas de ruines. Notre civilisation, notre société, notre culture décline, se dégrade. On est en train de dire que l'évolution de la pensée, de l'idéologie, c'est revenir à Sodome et Gomorre. Mais c'est dur à penser que l'évolution, c'est revenir en arrière à des civilisations lointaines. Mais en tout cas, il y aura la ruine qui est garantie. La question, c'est est-ce que je vais identifier ma vie? Est-ce que ma vie va suivre cette ruine? Ou est-ce que je vais vivre quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez vivre chez vous, c'est quelque chose de nouveau, vous lisez aussi le prophète Agée. Prophète Agée, le Seigneur lui dit clairement dans le premier chapitre, « Est-ce le temps d'habiter vos maisons lambrissées lorsque la maison de l'Éternel est en ruine ?» Et peut-être ce matin, vous avez l'impression que c'est en ruine, l'état de votre vie est en ruine. Alors, la condamnation n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là en train de dire, ah, pff, regardez-moi ça. Le Seigneur n'est pas en train d'être là pour dire, c'est pas bon, ça va pas. C'est à l'école qu'on vous a dit ça, pour pas vous dire à la maison. Mais à l'école, on vous a dit que c'est pas bon. À l'école, on souligne en rouge ce qui ne va pas. On devrait souligner ce qui va. On économiserait des stylos dans les copies si on soulignait ce qui était bon. Mais on souligne ce qui ne va pas, on met en évidence ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Et vous pouvez faire, vous essayez, mais c'est comme ça avec tous les parents et les enfants qui condamnent leurs parents feront la même chose avec leurs enfants. Vous pouvez être parfait pendant, c'est dur, hein, j'allais dire une semaine, mais là c'est irréaliste, pendant un jour. Vous êtes parfait avec vos parents pendant un jour et vous faites une erreur. On va vous dire, on va rien vous dire pour les 23h59 minutes de perfection. On va dire, voilà. Alors vous lisez et Agée, pas le premier chapitre, ça doit être le deuxième ou le troisième, où il est donné une question au sacrificateur, au prêtre. Il est dit, si vous portez sur vous des aliments qui sont sanctifiés et que ces aliments touchent quelque chose, est-ce que ce qui a été touché par ces aliments sanctifiés sera sanctifié? La réponse est non. En revanche, si vous portez quelque chose de souillé sur vous, qui a touché un mort par exemple, et que ce quelque chose touche quelque chose d'autre, est-ce qu'elle sera souillée? Oui. Donc il n'y a pas d'espoir pour vous si vous plaignez parce que pendant 23h59 vous avez été impeccable. Il n'y a pas d'espoir parce qu'il vous suffit d'une erreur. et vous êtes souillé, vous êtes condamné. N'est-ce pas? Les gens qui disent toujours la vérité, mais qui une fois mentent, sont des menteurs. Au même titre que ceux qui mentent toujours. Il suffit d'avoir menti une fois pour qu'on n'ait plus confiance en vous, parce que vous êtes menteur. C'est le verdict, c'est la réalité, c'est ça la vérité. Mais il y a la grâce qui efface, qui pardonne, qui donne une vie nouvelle. Mais lisez Agé chapitre 1, levez-vous et bâtissez. Levons-nous et bâtissons, il est dit, n'est-ce pas? Et c'est ça la position du chrétien qui a le sentiment quelquefois d'une ruine, ou celui qui n'a pas connu Dieu encore, qui a le sentiment que sa vie est une ruine, au lieu de dire ben, c'est une ruine, et demain dire c'est une ruine, et après-demain dire c'est une ruine, ma vie de toute façon elle est ruinée. Vous levez et vous bâtissez. Vous dites, Seigneur, je me lève sur ta parole, je réponds à cet appel qui me dit de quitter là où je suis. Je me lève et je vais bâtir la maison de Dieu. Parce que dans Agé, c'est la maison de Dieu dont il est question. Et je vais commencer à construire quelque chose pour Dieu. Vous pouvez lire cela dans Esdras, le cœur, n'est-ce pas? Le cœur qui a été disposé miraculeusement, le cœur même de Cyrus, roi de Perse. Rien à voir avec Dieu apparemment. Eh bien, Dieu lui a mis sur son cœur. Il faut que maintenant le temple soit reconstruit à Jérusalem. Et là, il y avait Esdras et il a sauté sous l'occasion. Et le peuple voulait reconstruire le temple. Est-ce qu'on se lève ce matin? On dit, Seigneur, je me lève sous ce tas de ruines, sous cette ville de Haï, et je me destine, je me dirige vers Bethel, la maison de Dieu, où je vais construire la maison de Dieu. Ma vie sera la maison de Dieu. Ma maison sera la maison de Dieu. Ma vie, les gens pourront venir et trouveront en me rencontrant, ils trouveront Dieu, ils trouveront la présence de Dieu. Est-ce que quand on vient vous voir, on sent la présence de Dieu ou est-ce qu'on sent une autre présence? Est-ce que c'est Bethel ou est-ce que c'est Beth-Aven ou est-ce que c'est Haï? Est-ce qu'on va vers un tas de ruines, vers la maison de Dieu ou vers la maison du péché quand on vient vers vous? Tout ça est réglé avec l'Évangile, avec le message de l'Évangile. Pas une fois, pas un jour où vous dites, voilà, j'ai répondu à un appel dans une réunion. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours chez vous. Seigneur, je veux ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester. Les chrétiens qui ne lisent pas la Bible sont perdus, sont voués à la ruine. Parce que la présence de Dieu, c'est en méditant, ce n'est pas dans le texte ici, ça, ce n'est pas la présence de Dieu. Ça. Si je perds ça, si ça tombe dans un feu et que ça brûle, on n'a pas perdu la présence de Dieu. Mais c'est le moyen qui me permet de comprendre le cœur de Dieu. On doit travailler la parole de Dieu. On doit chercher cette communion avec Dieu, cette présence de Dieu chez nous. C'est ça qui nous permet de reconstruire la maison de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à bâtir? Est-ce que dans cette ville, on va bâtir ce qui a été détruit il y a plusieurs siècles par la persécution? Alors qu'il y avait, semble-t-il, c'est difficile bien sûr parce que ce ne sont que des récits historiques, il semble-t-il y avait un peuple dans cette ville d'Hazebrouck, à Stenvoord et dans les environs à Cassel. Il y avait un peuple qui servait le Dieu vivant, qui était prêt à mourir pour la cause de Christ. Et ça a été détruit par la persécution. On a enlevé tous les signes de cette église qui était forte. Elle a été enterrée. On ne peut même pas savoir où se trouvait le temple à Bailleul. Il n'y a plus de traces. On ne sait plus, mais on sait qu'il y avait un temple à Bailleul. Tout a été détruit, mais est-ce qu'on est le peuple privilégié que Dieu a choisi pour relever ses ruines et pour en faire la maison de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, on est là, tu as donné ta parole a été puissamment prêchée dans les champs, peut-être même à cet endroit-ci, on ne sait pas, c'était des champs à l'époque, n'est-ce pas? Et les chrétiens se réunissaient dans les champs, en cachette derrière les haies, et ils prêchaient la parole, et les gens étaient touchés par la parole de Dieu. Peut-être à cet endroit, ça m'a beaucoup ému quand j'ai pensé ça au début, quand on avait le bâtiment. Peut-être qu'à cet endroit-là, il y avait un peuple qui adorait Dieu. Ils allaient à des endroits différents, bien sûr, pour se cacher. Et ça a été... Ils ont été disséminés. Mais j'aimerais savoir si on est prêt à être le peuple de Dieu qui se lève et qui dit, nous, on va construire. Il y aura la maison de Dieu qui sera bâtie à Hasbrouck. Amen. Voilà, alors j'espère vraiment que Dieu va agir dans nos vies. Donc répondez dans vos cœurs, chez vous, au Seigneur, et décidez de le suivre. Merci.